Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Comme il est avec moi tous les mardis et tous les jeudis, habituellement on se parle, on s'écrit le matin, puis on se dit de quel sujet on va parler avec mon ami et collègue Joseph Facal. Mais ce matin, je lui ai fait une demande spéciale. Joseph, je veux absolument ce matin qu'on parle de ce qui s'est passé hier au Parlement canadien, où à l'unanimité, on a accepté une motion déclarant que ce qui se passe en Chine, ce que la Chine fait aux Ouïghours, c'est un génocide. Mais le premier ministre Justin Trudeau et les ministres libéraux se sont abstenus de voter. Pour moi, c'est un scandale, c'est absolument honteux. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
J'en pense exactement la même chose que toi. En fait, non seulement l'appui était unanime, mais pire, c'est pas tellement... c'est pas seulement que les libéraux se soient abstenus, c'est qu'ils ont même pas eu le courage d'être là, présents pour se lever et le dire. Marc Garneau a expliqué très pudiquement la position et les autres se sont déguisés en courant d'air.
C'est absolument dégueulasse. Et en plus, ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il y a des responsables américains, des défenseurs des droits de la personne, des juristes qui disent tous oui, c'est clair comme de l'eau de roche quand on regarde tous les éléments et qu'on les additionne, ça égale génocide. La seule personne qui continue à maintenir bec et ongles que ce n'est pas un génocide, c'est l'ambassadeur de Chine au Canada qui trouve scandaleux que le Parlement se soit prononcé de cette façon-là. Donc, ça veut dire que Justin Trudeau et son conseil des ministres sont du même bord que l'ambassadeur de la Chine au Canada. C'est pas reluisant, là, comme compagnonnage.
Non, c'est pas reluisant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment si étonnant? En ce sens que Justin Trudeau est toujours le premier à poser des gestes d'éclat quand il y a zéro risque politique, comme par exemple s'excuser pour les pensionnats autochtones. Par contre, dès qu'il y a le moindre risque politique, alors là, évidemment, Capitaine Selfie devient invisible.
excuse-moi.
Et ça, c'est pas vraiment étonnant. Tu sais, Sophie, je confesse que je me suis trompé. En ce sens que pendant des années, j'ai pensé que dans le cas de Justin Trudeau, derrière l'image, il n'y avait rien. Au contraire, derrière l'image, il y a quelque chose, une profonde lâcheté, un grand cynisme.
Oui. Écoute, ce que je trouve absolument terrible, c'est qu'il faut appeler un chat, c'est-à-dire que quand on regarde les différents reportages, que ce soit dans les journaux américains ou que ce soit la BBC, les témoignages courageux de ces femmes qui ont été violentées, violées, torturées, des camps de travail, des camps de rééducation, de la stérilisation forcée, ça donne envie de vomir. Et monsieur Trudeau, il y a deux dossiers sur lesquels il est supposément très actif. Premier dossier, supposément c'est un féministe. Hein? Il est toujours prêt à prendre la défense des femmes. Dans ce cas-ci, c'est clairement, écoute, comment peux-tu, comme féministe, rester de glace quand tu apprends qu'il y a des femmes qui sont violées de façon systématique? Et je veux juste citer un reportage de la BBC qui nous apprend que dans certains cas de viol collectif, les femmes ont été violées à l'aide de bâtons électrifiés. Ça le titille pas un peu, Justin Trudeau, de lire ça? Et la deuxième chose, c'est que, et j'en suis bien sûr, Justin Trudeau défend la minorité musulmane quand elle est victime d'ostracisation, de discrimination. Mais comment se fait-il qu'il la défend, la minorité musulmane, quand elle vit au Canada, mais qu'il ne la défend pas quand elle vit en Chine? Parce que les Ouïghours, c'est une minorité musulmane qui est torturée, discriminée à cause, justement, de cette origine ethnique. Alors pourquoi c'est à géométrie variable?
parce qu'il a tout simplement peur de déplaire à la Chine, un régime qui ne comprend que la force. Non, non, écoute, il y a quelque chose en plus d'absolument outrageant d'entendre le régime chinois nous dire de ne pas se mêler de ses affaires internes, alors qu'en fait, s'il y a un régime qui, par son espionnage industriel, se mêle des affaires internes des autres pays, c'est évidemment la Chine. Non, écoute, c'est un régime qui ne comprend que la force, et ce qui est tout à fait frappant, c'est que après des années et des années et des années de silence complice, les langues commencent à se délier. Tu vois vraiment émerger un débat sur changer nos pratiques vis-à-vis de la Chine, peut-être même boycotter les Jeux olympiques. Mais maintenant que le débat s'enclenche, ah ben il y a quelqu'un aux abonnés absents, c'est Justin. Pourtant, évidemment, toujours si prompt à faire la morale aux autres, tant qu'il reste évidemment bien confortable ici au Canada, sans risque de déplaire aux puissants.
Oui, et c'est très triste parce qu'il y a trois éléments au dossier de la Chine. Il y a évidemment le traitement de la minorité ouïghour, premièrement. Deuxièmement, il y a évidemment la détention dans des conditions absolument dégueulasses des deux Michael, des deux ressortissants canadiens. Et il y a aussi l'attitude de la Chine depuis le début de la pandémie, mais c'est toujours bien là que ça a commencé, et le refus de la Chine de partager les informations que le régime possédait avec le reste du monde. Et ce refus-là, les conséquences que ça a eues sur le reste de l'humanité, je veux dire, aujourd'hui, on est rendu à 500 000 morts aux États-Unis. Si la Chine avait été transparente dès le début, imagine la réaction internationale, ce que ça aurait été. On aurait pu mieux se protéger contre ce virus-là. Donc, je veux dire, à part être en état voyou, c'est quoi la Chine en ce moment, là?
Bon, tu as tout à fait raison. Il faut dire, évidemment, que, tu vois, moi, je fréquente beaucoup les milieux universitaires, intellectuels, et je réalise aussi, avec le recul, si je me replonge, il y a une trentaine d'années, comment nous avons mal lu la Chine. C'est-à-dire que, pendant des décennies, dans les milieux supposément éclairés de la science politique, et de la socio, puis de la diplomatie, puis ta. L'idée dominante était que, en laissant la Chine s'intégrer au système capitaliste mondial, eh bien, les libertés économiques allaient entraîner des libertés politiques.
Mais c'est un mauvais pari.
Voilà, c'est un pari. Nous avons complètement échoué et nous avons évidemment laissé se créer cette espèce de Frankenstein qui, en plus, évidemment, a ramené sur son sol une bonne partie de notre tissu industriel. Alors maintenant, évidemment, on veut des masques, on demande à la Chine. On est tous évidemment un peu collectivement coupables de négligence, mais évidemment, Justin Trudeau, lui, porte le cynisme à un niveau qui devrait lui faire un peu honte. Mais je ne sais pas si la honte est véritablement un sentiment qui l'effleure.
Je suis en train de noter cette phrase-là. Je ne sais pas si la honte est un sentiment qui l'effleure. Écoute, il faut quand même souligner hier à Ottawa, donc en fait, même si c'est parfois virtuel, mais il reste que donc motion conservatrice qui a été bonifiée, si tu veux, par l'apport d'Alexis Duceppe Brunel, qui a donc fait rajouter cette clause disant que si la Chine ne changeait pas son attitude, qui était hors de question que les Jeux olympiques aient lieu en Chine. Donc, les conservateurs ont voté pour la motion, le Bloc québécois a voté pour la motion, le NPD a voté pour la motion, le Parti vert a voté pour la motion. Quelques députés libéraux, donc, ont voté aussi pour la motion. Il faut quand même le souligner, M. Housefather, entre autres, mais les ministres du gouvernement Trudeau et M. Trudeau lui-même, aux abonnés absents. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Que les gens s'en souviennent au moment des élections. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Écoute, je veux revenir sur deux de tes chroniques, celle de ce matin, celle de samedi. Écoute, toi, tu as vu un documentaire sur Keith Richards. Et qui aurait cru qu'un documentaire sur Keith Richards pourrait aboutir ou déboucher sur une réflexion sociologico-anthropologique, disons?
Ben oui, parce que, écoute, de la gauche monte maintenant cette espèce de nouvel agenda sur lequel, d'ailleurs, Richard aussi s'arrachait un peu les cheveux. Cette idée que la gauche, maintenant, elle ne veut plus combattre les excès du capitalisme. Mais non, elle veut traquer des romans de 1863 pour voir s'il n'y aurait pas un mot toxique à l'intérieur. Et je réfléchissais à ça en me désolant de voir certains de mes copains de gauche, eux-mêmes extrêmement tristes et désolés, et je tombe complètement par hasard sur ce documentaire où, évidemment, un des plus grands bluesman noirs dit aux Stones, ben merci d'aider à faire connaître ma musique dans le reste du monde. Et je me dis qu'il y avait là vraiment un message
Muddy Waters,
d'authentique fraternité.
Ouais.
D'authentique fraternité. Alors qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de rassembler, il s'agit de caser les gens dans leur petite catégorie raciale. C'est le progrès, ça? Ben voyons donc.
Ben oui, faut que tu me charges des droits, là. Faut que tu me payes des droits d'auteur, parce que je commence toujours mon émission avec mon petit ben voyons donc. Fait que là, mais je t'autorise aujourd'hui. Je t'autorise aujourd'hui à me l'emprunter. Mais écoute, quand on parle de rectitude politique, je fais un aparté, mais je sais pas si t'as vu, mais on a appris au cours des dernières heures que le Muppet Show, tu penses que le Muppet Show, là, c'est comme, tu sais, c'est inoffensif. Ben non, ça vient maintenant avec un avertissement pour les anciens épisodes qui dit en gros, cet épisode contient des éléments des valeurs de discrimination à l'époque, qui étaient inacceptables à l'époque, qui sont encore inacceptables aujourd'hui, mais on préfère vous en prévenir. Écoute, c'est complètement Sophie, le Muppet Show, c'est des marionnettes, lâchez-nous!
Mais Sophie, l'autre jour, j'ai vu qu'en janvier, à la télévision britannique, on avait diffusé Grease, tu te rappelles?
Oui, la comédie
musicale de 78 avec John Travolta et Olivia Newton-John. Évidemment, t'avais une poignée de woke qui trouvaient que le personnage de Sandy, c'était vraiment la petite poupoune blonde un peu niaiseuse, puis que Travolta faisait son macho. Écoute, une comédie musicale de 1978, là, franchement, là. En fait, il n'y a plus rien qui il n'y a plus rien qui semble acceptable. Et pendant ce temps-là, évidemment, le capitalisme et tous ses excès continuent sans aucun problème. Ben,
voilà.
On préfère traquer les mots. Et moi, Sophie, tu sais, je tiens à le dire. Beaucoup de gens m'associent, moi ou Mathieu Bock-Côté et compagnie à la droite et tout. Mais moi, je suis convaincu que dans une société saine, il faut une gauche. Il faut une gauche pour interpeller les puissants, pour servir de chien de garde, pour garder un discours critique. Mais la gauche qu'on a sous nos yeux, elle est en train, en fait, de rendre un très mauvais service aux causes qu'elle prétend servir.
Oui, et c'est ça qui est triste, parce que, bon, on le répète ad nauseam, que ce soit toi, Mathieu, Richard, moi ou d'autres, on le répète ad nauseam à quel point la gauche s'est perdue et à quel point cette gauche qui défendait pourtant le gagne petit, hein, l'ouvrier exploité, à quel point elle a oublié cet ouvrier exploité. Et Dieu sait que, par exemple, on n'a qu'à regarder avec la pandémie à quel point, justement, plus que jamais, ces gens-là ont besoin d'être défendus, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur origine, peu importe, je veux dire, c'est cette classe ouvrière qui en arrache, qui en a jamais autant arraché. Et cette classe ouvrière-là, elle s'en tape de savoir si tu dis Yale à l'université ou si John Travolta était macho dans un film. Je veux dire, on s'en tape, il y a des choses tellement plus graves, tellement plus essentielles à la survie au quotidien, qu'on comprend mal pourquoi la gauche s'intéresse à ces dossiers-là. Écoute, le deuxième dossier dont je voulais parler, c'est ton autre chronique qui s'intitule « La glace est mince sous les patins de la CAQ ». Et en fait, c'est qu'il faut que la CAQ fasse attention parce que il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour la CAQ à l'époque. Est-ce qu'ils vont continuer à voter pour la CAQ aux prochaines élections? Excellente question, Joseph.
Écoute, La CAQ est une sorte de coalition contre nature, où tu as des fédéralistes, des souverainistes, des gens plus de droite, des gens plus à gauche, plus près du centre. Et fondamentalement, ce sont des gens qui sont parvenus au pouvoir, d'une part parce que le PQ était épuisé, et surtout parce que, de manière très pragmatique, ils ont vu dans la CAQ le meilleur moyen de se débarrasser des libéraux de Filière. Ça, je peux comprendre, mais ça, c'est du court terme. À partir du moment où tu as une coalition hybride et contre nature, elle peut tenir le coup combien de temps? Et là, en ce moment, évidemment, à cause de la pandémie, tout le monde se rallie autour de celui qui tenait le fort. Mais miser uniquement là-dessus pour se faire réélire, c'est un pari très risqué. Et M. Legault nous avait dit « Ok, bon, d'accord, pas la souveraineté, mais je serai quand même nationaliste. » Ben là, écoute, sur le front du nationalisme, sur le front de l'affirmation du Québec français, hormis la loi 21, un strict minimum, pour le reste, ben on le cherche, hein, le bilan en matière de nationalisme. On attend toujours la politique linguistique. On sait très bien que sur les points centraux, Dawson, le cégep et tout, il n'y aura pas vraiment beaucoup de mouvements. Alors, à un moment donné, il va falloir que la CAQ donne à boire et à manger aux gens qui lui ont fait confiance. Et tu sais, Sophie, il y a un demi-million
c'est énorme.
De souverainistes qui ont voté pour la CAQ. Ces gens-là, à un moment donné, ils vont peut-être se chercher une autre maison.
Oui, et d'autant plus, et j'ai beaucoup aimé que tu rappelles ça, même si c'est juste une ligne dans ton texte, que tu rappelles que les gens de la CAQ, alors qu'ils s'y étaient engagés, si je me trompe pas, dans leur promesse électorale, ont même pas été capables d'appuyer une motion pour dénoncer la monarchie, alors qu'on était en plein, justement, débat, que le fruit était mûr, qu'il y avait eu toute l'affaire Julie Payette, tous les sondages qui disaient que... Ben non, puis là, tout d'un coup, la CAQ est aux abonnés absents aussi, quand vient le temps de...
Bien sûr, et puis tu sais, on sent chez les électeurs une certaine lassitude. On voit maintenant que la pandémie a été gérée, enfin, que beaucoup de coches ont été mal taillées, et crois-moi, Sophie, crois-moi, il n'y a pas beaucoup de gratitude chez l'électorat. Moi, je me rappelle parfaitement de 1998, on sortait de la crise du verglas. Lucien Bouchard avait une cote d'amour stratosphérique. Mm-hmm. Eh bien, à l'automne, on a réussi à gagner, mais à genoux et sur les rotules.
Hein? Oui, puis de toute façon, tu rappelles avec tout à fait, c'est le meilleur exemple de l'ingratitude de l'électorat, c'est Churchill. Ben, tu le rappelles dans ton texte. Je veux dire, c'est écoute, cet homme qui a tenu l'Angleterre à bras le corps, qui a aidé l'Angleterre à se sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et les électeurs qui lui montrent la porte. Je veux dire, écoute, quelle ingratitude!
Voilà. Et dans le contexte actuel, n'oublions pas, le Parti libéral du Québec débute n'importe quelle campagne électorale avec 25 ou 30 comtés gagnés d'avance. Le PQ, lui, écoute, on a pronostiqué sa mort, mais on réalise que la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Et rappelle-toi, on avait aussi annoncé la mort du Bloc, et tu as vu comment le Bloc a littéralement...
Absolument.
Et renaît ses
avec
sens,
Blanchet,
hein?
Avec Blanchet, voilà. Oui, quand même.
Alors tu vois, il faudrait pas que la CAQ s'imagine que parce qu'elle est seule sur la patinoire en ce moment, ça garantit son succès. On nous avait promis un nationalisme robuste, et nous sommes beaucoup à attendre qu'on livre la marchandise.
Oui, c'est ça, il faut faire attention, parce que bon, ben les élections, c'est dans 20 mois, je pense, c'est ça que tu avais calculé.
Oui,
ça peut paraître loin, mais en même temps, en politique, tout va si vite, il faut vraiment que la CAQ, et j'aime beaucoup ton image, bon, j'aime beaucoup l'image de la truite qui gigote dans le fond de la chaloupe, j'avoue que c'était en train de faire un Jean Lapierre de toi-même, c'est le genre d'expression que feu Jean Lapierre aurait utilisé, mais ton expression aussi, la glace est mince, et il faut faire attention quand on patine comme la CAQ, de pas se retrouver avec les petits poisson des chenaux. Écoute, merci beaucoup, Joseph. Et puis, ben, on se retrouve jeudi, hein. C'est ça qui est bien maintenant que t'es deux fois par semaine. Ça, c'est super. Et j'invite tout le monde, tiens, on va juste terminer là-dessus, Joseph, parce que ça peut paraître abstrait, toute cette discussion, mais je pense que c'est, pour revenir à ce dont on a parlé au tout début, je trouve que c'est très, très, très important que les gens se renseignent sur la situation de la minorité ouïghour en Chine. On ne peut pas vivre en 2021 et faire semblant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je pense qu'on le doit à nos enfants et à nos petits-enfants de prendre connaissance de ce qui se passe en ce moment. C'est une question de fierté, une question d'humanité, en fait.
Tout à fait d'accord avec toi, tout à fait.
Alors, à jeudi, Joseph.
Merci, au plaisir, au revoir, bonne semaine.